bonjour, des rumeurs, des oui-dire, l'affaire politique du moment, celle qui monte, l'affaire Jouyé-Fillon n'a pas encore livré tous ses secrets, une certitude, elle profite au Front National et à Nicolas Sarkozy, analyse dans ce journal de Stéphane Robert.
Les Catalans se sont déplacés en masse hier pour dire oui à l'indépendance de leur région, un vote cela dit sans valeur, puisque non autorisé par Madrid, la région Catalogne demande à ce qu'un vrai référendum soit désormais organisé.
Le constructeur automobile Renault ouvre sa première usine en Algérie, des voitures dans un premier temps destiné au marché algérien. Les précisions d'Hakim Kasmine en journal. Et nous irons aussi en Chine, où se tient le forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique en présence du président Obama. À qui profitera la partie de poker menteur autour de l'affaire Jouyé-Fillon, émaillée de connivence droite-gauche? Une chose est sûre, ce n'est pas le débat politique en général qui en sortira grandi. Pour l'instant, François Fillon, ex-premier ministre, nie avoir demandé avant l'été au secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, d'accélérer les procédures judiciaires lancées contre Nicolas Sarkozy. Une information démentie dans un premier temps par Jean-Pierre Jouyet avant qu'il ne reconnaisse du bout des lèvres qu'au cours d'un déjeuner, les deux hommes avaient bien parlé de l'affaire Big Malion et des pénalités pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Véronique.
À l'heure où l'on parle, il n'y a que des rumeurs, des oui-dire dans cette affaire.
Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on sait précisément à l'heure où l'on parle? Que François Fillon a déjeuné avec Jean-Pierre Jouyé le 24 juin, personne ne le conteste. Que Jean-Pierre Jouyé a rencontré deux journalistes le 20 septembre, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Et à partir de là, on est dans des propos rapportés. Davet et Lhomme affirment que le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyé, leur a raconté que François Fillon aurait voulu faire pression sur la justice, qu'il aurait demandé de taper vite sur Nicolas Sarkozy avant qu'il ne revienne. On était quelques jours après les révélations sur l'affaire Big Malion. Et que François Hollande avait refusé, les deux journalistes, pour étayer leur dire, affirment disposer d'un enregistrement de la discussion avec Jean-Pierre Jouyé en septembre. Lequel Jouyé a d'abord démenti jeudi dernier avant de dire que oui, effectivement, c'était vrai. Il avait parlé des affaires autour de Sarkozy au mois de juin avec Fillon. L'ancien Premier ministre était l'invité hier soir du 20h de TF1. Il a d'ores et déjà porté plainte en diffamation contre les deux journalistes et il menace de porter plainte contre Jean-Pierre Jouyé.
Moi, je ne peux pas croire que M. Jouyé ait tenu ses propos parce que je le connais.
Non, mais il
sur
dit bien,
lui pour
on
demander...
a parlé des pénalités.
Voilà. Eh bien, je
on
dis
a
que
parlé
c'est faux.
De ses affaires.
Je dis que c'est faux.
Donc là, vous l'accusez
je
de mensonge.
Je dis que c'est faux et je l'accuse de mensonge. Mais je vais plus loin. Si jamais les enregistrements révélaient que M. Jouyé s'est effectivement exprimé ainsi, alors ça serait extrêmement grave. Ça voudrait dire qu'on est en présence d'un scandale d'État. Il y a des personnes qui cherchent à déstabiliser un responsable de l'opposition. Je vais vous dire une chose, je ne le laisserai pas faire et je vais rendre coup pour coup.
Alors, qui dit vrai dans cette affaire? Tentative de manipulation politique ou faux pas dévastateur pour Fillon, accusé de traîtrise vis-à-vis de son propre camp? À ce stade, impossible de trancher car on est dans le oui-dire. Mais on peut quand même déjà parler d'une énorme maladresse du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyé, qui a d'abord démenti avant de revenir sur ses propos. Il doit désormais apporter la preuve des accusations contre François Fillon. S'il ne le fait pas, il laisse libre cours à toutes les suspicions de manœuvres politiques. Et c'est François Hollande qui se retrouverait en première ligne. C'est d'ailleurs ce que laissent entendre aujourd'hui les fillonistes, que Hollande serait à la manœuvre car il préférerait avoir Sarkozy comme adversaire en 2017.
Cette affaire, c'est une aubaine, Stéphane, pour le Front National et bien sûr Nicolas Sarkozy.
Oui, pour le Front National, c'est du pain béni. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a très vite compris. Elle a réagi dès hier, dénonçant cette affaire comme un exemple de ce qu'elle appelle le système UMPS. Elle rappelle au passage que Jean-Pierre Jouyet est un ami de François Hollande, même promo à l'ENA, et qu'il a aussi été ministre de François Fillon, secrétaire d'État aux Affaires européennes plus précisément. Et puis le deuxième bénéficiaire, vous le disiez, Nicolas Sarkozy, ça fait des mois que ses proches essaient de faire passer l'idée dans l'opinion qu'il y a une cabale contre lui, une cabale judiciaire pour l'empêcher de revenir. Alors qui tire les ficelles de quoi? Pour l'instant, impossible à dire, mais au final, c'est toute la classe politique qui est perdante dans cette histoire, car tout ça ne fait que renforcer l'idée que nos élus se livrent à des luttes intestines en ne se préoccupant que de très loin des difficultés des Français.
Merci Stéphane Robert, on vous retrouve bien sûr dans notre édition de 12h30. Jusqu'à demain soir, le parti de gauche organise une votation citoyenne et symbolique. Il s'agit de promouvoir le droit de révocation des élus. 500 urnes ont été mises à disposition des votants dans tout le pays. Le droit de révoquer les élus du président de la République en cours de mandat au conseiller municipal. C'est une idée de Jean-Luc Mélenchon, ex-coprésident du parti de gauche. Une votation citoyenne, c'était aussi le cas hier en Catalogne. Et au bout, l'indépendance, bien sûr, à plus de 80%, selon des résultats encore provisoires. Plus de 2 millions de Catalans se sont prononcés pour l'indépendance de leur région. Référendum d'autodétermination sans précédent, mais sans valeur légale, puisque non autorisé par Madrid. Le président régional catalan, Artur Mas, a demandé hier soir au Monde de plaider la cause de la Catalogne en convainquant le pouvoir espagnol d'accepter l'organisation, cette fois, d'un vrai référendum sur l'avenir de la région. À Barcelone, Mathieu de Taillac.
Le processus participatif, c'est le nom officiel de ce vote, était à mi-chemin entre le référendum et la manifestation. Référendum parce qu'il y a bien eu des urnes, des bulletins de vote et des électeurs. Manifestation parce que la plupart des citoyens étaient là pour revendiquer le désir d'un vrai scrutin officiel et au-delà l'indépendance de la Catalogne. Pere Libre, par exemple, rencontré devant le collège Emperador Carlos, où il est venu voter.
C'est vrai que les indépendantistes vont être plus mobilisés et qu'il y aura des gens qui veulent voter non, qui croient peut-être que pas venir voter, c'est une façon de montrer que ce n'est pas la majorité du peuple catalan qui veut l'indépendance. Si en Catalogne, on vient de faire pendant les derniers 3-4 ans des démonstrations de la volonté d'une partie du peuple, donc à chaque fois qu'on nous convoque, on vient ici. Aujourd'hui, c'est un symbole et c'est des journées comme ça que, au fur et à mesure, on va construire l'histoire avec nos propres mains.
Le lyrisme fait rarement défaut au discours indépendantiste. Ce lundi, il faut retourner à la réalité quotidienne et à la négociation. Le président catalan Artur Mas prépare une lettre à Mariano Rajoy pour lui demander d'organiser un référendum en bonne et due forme.
Les partis politiques d'opposition, mais aussi les associations de défense des droits civiques et des chefs religieux se sont mis d'accord hier sur une charte prévoyant la création d'une autorité de transition afin de préparer des élections démocratiques au Burkina Faso. Cet accord doit être présenté cette semaine au lieutenant-colonel Isaac Zida, qui s'est proclamé chef de l'État au Burkina. Après la fuite du président Blaise Compaoré, le gouvernement intérimaire serait composé de 25 membres qui n'auraient pas la possibilité de se présenter ni à l'élection présidentielle, ni aux élections législatives, des élections qui doivent avoir lieu l'an prochain. Quand l'Égypte s'inspire du président russe Vladimir Poutine, le pouvoir égyptien a donné aux organisations non gouvernementales présentes en Égypte jusqu'à aujourd'hui pour s'enregistrer et se conformer à une nouvelle loi encadrant drastiquement leur activité. Si les autorités ne changent pas de politique, ce sont des dizaines d'ONG qui pourraient être contraintes à cesser leur activité en Égypte. C'est un reportage de François Ferkataji au Caire.
En attendant la décision des autorités, la plupart des organisations des droits de l'homme seront fermées aujourd'hui au Caire. Mohamed Zahri, responsable du Cairo Institute, a même quitté le pays. Il y a quelques jours, il s'exprimait au sujet des conditions de travail des ONG.
Aujourd'hui, nous travaillons dans une atmosphère vraiment hostile. Elle n'encourage pas la société civile à s'engager, à améliorer le futur de l'Égypte. Cela montre aussi qu'il n'y a aucune volonté politique de conduire la transition démocratique. Depuis 2011, toutes les lois qui ont été proposées par le gouvernement à propos des ONG ont été plus restrictives que celles qui existaient auparavant.
Parmi les nouveaux articles ambigus que stipule le projet de loi, on retrouve par exemple l'obligation pour les ONG de demander l'autorisation aux autorités pour chacune de leurs activités. Des activités qui devront répondre, je cite, aux priorités de la société égyptienne. Il prévoit également la création d'un comité spécial chargé d'approuver ou de rejeter l'utilisation de fonds étrangers. Pour Minatabe, chargé de mission à la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, ce serait un pas de plus vers la criminalisation de l'opposition au régime.
Si je prépare un projet pour mettre en valeur la liberté religieuse ou la liberté de penser, si je mets en place n'importe quel projet qui ne plaît pas aux autorités ou qui n'est pas conforme à leur politique, eh bien ils peuvent arrêter ce programme à cause de cette loi. Et pas seulement l'arrêter, ils peuvent me mettre en prison ou mettre en prison mes collègues. L'idée de pratiquer librement votre travail et faire votre devoir pour la société n'existe plus.
Mais la semaine dernière, l'Égypte a subi les vives critiques de la Commission pour les droits de l'homme de l'ONU qui se tenait à Genève. Un proche du ministre des Affaires étrangères a laissé entendre que la loi pourrait être finalement examinée par le nouveau Parlement, des élections qui se font attendre depuis plus de 6 mois.
Barack Obama annonce une nouvelle étape en Irak où les Américains ne veulent plus seulement stopper les djihadistes mais lancer une offensive contre eux. Pour le président américain, l'envoi annoncé vendredi dernier de 1500 conseillers militaires supplémentaires en Irak marque l'entrée de cette nouvelle phase. Elle débute alors que Bagdad et Washington cherchent toujours à déterminer si le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, faisait partie ou non des dirigeants djihadistes tués ou blessés il y a 3 jours par des raids aériens de la coalition. Barack Obama, qui est arrivé ce matin à Pékin sous un grand ciel bleu, une pollution dissipée. Le président américain présent en Chine pour participer à l'APEC, le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Moins de pollution à Pékin, mais de sérieux nuages autour de ce forum, sur fond de tensions entre Chinois et Japonais, Américains et Russes, et aussi entre Washington et Pékin. Barack Obama s'attachera à réaffirmer le rôle des États-Unis dans la région, alors que certains alliés de Washington se montrent moins empressés à tenir tête à une Chine devenue tellement influente économiquement à Pékin. La correspondance de Philippe Reltien.
L'économie chinoise est en train de ralentir. L'économie américaine présente un déficit commercial record avec la Chine. Une phase de détente semble s'ouvrir avec le Japon de Shinzo Abe. Ça faisait 2 ans qu'on ne se parlait plus à cause des conflits de souveraineté en mer de Chine. À tous, Pékin propose une étude stratégique pour monter un réseau de libre-échange concurrent de celui des États-Unis qui excluait la Chine, avec une banque asiatique de financement des infrastructures en monnaie chinoise. L'Amérique en minimise la portée. Le Global Times répond « Vous n'avez plus la force de dominer le monde ». Obama verra longuement le président chinois qui vient de signer un 2e accord de livraison de gaz russe avec Poutine. La Chine cherche à étendre ses filets. Une sorte d'Interpol chinois anti-corruption voit le jour. On insiste sur la connectivité sur terre et sur mer, qu'il s'agisse du TGV, des lignes maritimes, des banques, de l'Internet sécurisé ou du gaz russe, qui intéresse aussi Tokyo. On ne parle plus du droit de la mer, ni de la zone d'interdiction aérienne imposée par la Chine. Le Japon, la Corée, Taïwan, la Russie, le Canada, l'Australie, le Pakistan, la Birmanie et le Vietnam sont les bienvenus. L'Inde moins. L'étude de faisabilité sera mentionnée dans l'annexe du communiqué final. Xi Jinping se donne 3 jours pour convaincre Obama de ne pas le freiner.
Après l'allemand Mercedes, c'est au tour de Renault de s'installer en Algérie. Le constructeur va inaugurer ce matin sa première usine tout près d'Oran, dans l'ouest du pays. Les autorités algériennes avaient très mal vécu le fait que le groupe se soit d'abord installé au Maroc, à Tanger, avec François Hollande. Eh bien, les affaires reprennent. Le chef de l'État fait de l'Algérie une de ses priorités sur le plan économique et diplomatique. Dans un premier temps, le véhicule produit, la Renault Symbole, sera destiné uniquement au marché algérien. Les précisions d'Hakim Kasmi.
Comme l'exige la loi, l'usine, basée près d'Oran dans l'ouest du pays, sera détenue à 51% par l'État algérien et à 49% par le constructeur français. Un système que l'on retrouve aussi, par exemple, en Chine ou aux Émirats, où le fait d'avoir un partenaire local est obligatoire. Le modèle produit sera une version de la Dacia Logan, destinée pour l'instant uniquement au marché algérien. Un marché qui compte beaucoup pour Renault, puisque c'est le 2e d'Afrique de l'Ouest, avec déjà 400 000 véhicules importés. Sur le plan social cette fois, le site emploiera 300 personnes, une petite bouffée d'oxygène pour la région, dans un pays où le chômage des jeunes atteint les 70%. Ce n'est donc pas un hasard si les autorités algériennes ont beaucoup insisté pour que le site soit basé en région. En effet, aujourd'hui, l'Algérie dépend à 98% de ses exportations d'hydrocarbures, l'industrie ne représentant que 5% de son produit intérieur brut. Mais le nombre de voitures produites, 25 000 par an pour l'instant, peut poser question. Il reste faible par rapport aux autres usines de la marque. Au Maroc voisin, à Tanger, il atteint les 90 000 véhicules par an, un chiffre qui devrait même doubler cette année. Il ne faut donc pas s'y tromper. Au-delà de l'aspect économique, l'inauguration de l'usine Renault aura aussi une dimension diplomatique. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, mais surtout Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Laurent Fabius, deux poids lourds du gouvernement, seront du déplacement. Car les relations avec l'Algérie restent une priorité de François Hollande, qui s'est impliqué personnellement pour que Renault s'implante dans le pays.
Terminons le journal avec une bonne nouvelle dans le domaine de l'environnement. Une chose,
c'est pas si courant.
Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Gare une politique volontariste, eh bien le thon fait son retour dans les mers. Mais faut-il pour autant relever les quotas de pêche? Encouragé par le retour spectaculaire du thon rouge en Méditerranée dans l'Atlantique Est, la Commission internationale pour la conservation des thonidés pourrait être tentée de fixer un nouveau quota de prise de thon moins drastique. La Commission se réunit cette semaine à Gênes, en Italie. La France demande de son côté un relais progressif des quotas. Les ONG environnementales et les scientifiques prônent la prudence. Nathalie Fontrel.
Depuis 2006, les quotas de pêche ont été drastiquement abaissés. On est passé de 30 000 tonnes autorisées à 13 500. Le nombre de bateaux et les périodes de pêche ont été réduits. Et la bonne nouvelle, c'est que ces mesures ont permis au thon rouge de souffler. Les pêcheurs sétois, comme Bertrand Wendling, espèrent pouvoir augmenter les prises.
Depuis 2 ans, les avis scientifiques sont plutôt très bons. Cette année, les sont excellents. Le nombre de thons rouges présents dans le fond Atlantique et Méditerranée est en forte augmentation. Et on peut, sans aucun souci, sans risque pour la ressource, augmenter le quota. Donc évidemment, les professionnels attendent une augmentation du quota général.
Oui, mais pour les écologistes, il est encore trop tôt. Il plane encore un doute sur les données scientifiques. Augmenter les quotas dès cette année risquerait de fragiliser la reconstitution des stocks. Il plaide aussi pour un meilleur contrôle de la traçabilité des thons. Sergi Tudela est directeur du programme pêche en Méditerranée du WWF.
Il est énormément important de garantir la traçabilité pour ne pas permettre que les produits issus de la pêche illégale pourrait arriver au marché. Malheureusement, nous avons fait un rapport qui montre que les systèmes ne garantissent pas la traçabilité.
Et certains scientifiques estiment qu'il vaudrait mieux attendre encore 2 ans avant d'augmenter les captures.
Le temps de ce lundi 10 novembre, avis de gros temps, il va pleuvoir encore sur le Var et les Alpes-Maritimes. Dans la matinée, des pluies parfois fortes frapperont l'est du pays et des orages aussi sont annoncés dans le sud-est. Pluie également dans l'ouest, mais c'est plus calme. Les températures maximales seront comprises cet après-midi entre 10 et 23 degrés du nord au sud, 10 à Lille, 13 à Paris, 16 à La Rochelle et 23 à Ajaccio en Corse.